RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditeurs et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici le journal et on commence avec les titres. Le président indonésien a demandé aux forces de sécurité de s'attaquer sérieusement à l'exploitation forestière illégale. Le président de la République d'Indonésie demande à la communauté de ne pas continuer à planter les palmiers à huile. Le ministre des Affaires maritimes a invité des hommes d'affaires sud-coréens à investir en Indonésie. Selon Kadin, l'accord commercial Indonésie-EFTA établit un partenariat stratégique. L'ASIS n'est pas une solution pour lutter contre les déchets plastiques. L'Indonésie présente le batik à l'exposition cambodgienne. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le président indonésien Joko Widodo a demandé aux forces de sécurité à s'attaquer sérieusement à la batasse illégale dans la province de Jambi. La demande a été transmise par le président Joko Widodo au parc forestier de Pinus Kenali dans la ville de Jambi dimanche, lors de la soumission du décret de foresterie sociale cité par l'agence de presse Antara. Selon le président, l'exploitation forestière illégale existe encore dans toutes les provinces et cela est la tâche de l'appareil judiciaire et la police à prendre des mesures. La première dame Iriana Joko Widodo, ministre de la coordination des affaires économiques Darmin Nasution, ministre des forêts et de l'environnement Madame Siti Nurbaya Bakar, est également présent à cet événement. Le président indonésien Joko Widodo a demandé à la population de ne pas continuer à planter des palmiers à huile sur les plantations de palmiers à huile, comme cité par Republika Online. Le président Joko Widodo au parc forestier de Pinus Kenali dans la ville de Jambi a déclaré dimanche qu'actuellement le prix de l'huile de palme pourrait être moqué sur le marché international parce que les pays extérieurs craignent que l'huile de palme perturbe leur production. Le président a ajouté qu'il y avait maintenant le rejet de l'Union européenne parce que là-bas, ils produisent de l'huile de tournesol. Le rejet de l'huile de palme fait la consommation de l'huile de tournesol peut rester élevée. Par conséquent, le président encourage les gens à planter divers autres plants pouvant produire tels que le café et le patchouli pour la fabrication de cosmétiques et de parfums, si bien que les gens ne dépendent pas seulement du palmier à huile. Le ministre indonésien de la coordination des affaires maritimes, M. Luhut Binsar Panjaitan, a invité les hommes d'affaires sud-coréens à investir plus activement en Indonésie car il y a beaucoup d'opportunités. Le ministre a invité les entreprises sud-coréennes à investir en Indonésie, comme dans le secteur de l'automobile, ou accroître les investissements existants comme dans le secteur de la pêche. Les deux pays viennent de créer un centre de recherche et de coopération de technologies maritimes au sein du bureau du ministère de la coordination des affaires maritimes. C'est ce qu'a déclaré le ministre lorsqu'il a reçu le ministre sud-coréen de la mer et de pêche, Kim Jong-un, à Séoul, en Corée du Sud. Le ministre Luhut a ajouté que pour le secteur automobile, il y avait beaucoup d'opportunités car l'Indonésie signerait bientôt un accord de coopération économique et un accord de libre-échange avec l'Australie, de sorte que les sociétés sud-coréennes en Indonésie pourraient occuper le marché de l'automobile en Australie qui a connu de nombreuses fermetures. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. La Chambre de commerce et d'industrie indonésienne évalue que les accords commerciaux conclus par l'Indonésie avec quatre pays membres de l'Association européenne de libre-échange ou EFTA ont établi des partenariats stratégiques pour améliorer la compétitivité nationale. Selon l'agence de presse Antara, le ministre indonésien de commerce, M. Enggartia Stolokita, et le ministre des pays membres de l'EFTA, tels que Liechtenstein, l'Islande, la Norvège et la Suisse ont signé l'accord commercial Indonésie-EFTA à Jakarta dimanche. Sinta Wijaya Kamdani, présidente générale adjointe de la Chambre de commerce chargée des relations internationales, a déclaré dimanche à Jakarta que sa partie en tant que représentant des hommes d'affaires soutenait fermement les efforts du gouvernement pour améliorer la compétitivité nationale par de l'accord. Sinta estime que les pays membres de l'EFTA ont un grand potentiel en tant que source principale d'investissement, en particulier dans les domaines de la haute technologie et de la santé. L'Association indonésienne de l'industrie des olefines, du plastique et des aromatiques a dit que l'application de l'ASIS et l'interdiction du plastique dans un certain nombre de régions ne sont pas la solution au problème des déchets plastiques. Le secrétaire général de l'Association indonésienne de l'industrie de l'olefine, Fajar Budiono, contacté par la République Online, a confirmé dimanche que l'association a accepté de réduire les déchets plastiques dans la mer. Mais selon lui, la solution ne consiste pas à imposer une assise plastique. Le traitement des déchets plastiques doit utiliser le système de gestion zéro déchet. La gestion zéro déchet vise à résoudre le problème des déchets provenant de ces sources, telles que ceux des menaces et des marchés. Les déchets seront d'abord triés en amont, ce qui facilitera leur traitement. Fajar Budiono a ajouté qu'avec la gestion zéro déchet, la charge de travail des sites d'élimination finale sera réduite car les déchets ont déjà été triés et traités. L'Indonésie a de nouveau l'occasion de présenter un produit de batik et des bijoux à la 13e exposition de Cambodge sur l'import-export et une province, une exposition de produits. Une déclaration écrite reçue par Antara à Jakarta dimanche indiquait que dans la présentation en langue Khmer, la vidéo du processus de fabrication de batik et un mini défilé de mode présentant les vêtements en batik des exposants. L'un des représentants des micro, petites et moyennes entreprises de CV Aruni Napak, M. Bahrul Hassan, a brièvement expliqué le batik indonésien et son processus de fabrication. Au cours des dernières années, le batik indonésien commence à avoir une place dans le style de vie des Cambodgiens, comme par exemple les chemises pour les hommes et les femmes et les sarongs en batik. Ces produits de mode sont très portés par les Cambodgiens et se trouvent sur le principal marché de Phnom Penh et Siem Reap. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie, sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Les femmes dans les forces de paix indonésiennes aux Nations Unies ». La police nationale indonésienne ou Polri organise la cérémonie de l'acceptation de nouveaux membres, l'unité de police constituée et l'agent de police individuel au centre de formation multifonctionnelle de la police à Cikeas Bogor, Java Occidental, le dimanche. Cette cérémonie a été faite aux forces Garuda Bayangkara dans le cadre de la mission de paix des Nations Unies. Le chef de la division des relations internationales de la police nationale indonésienne, l'inspecteur général policier Malta, a déclaré que cette année, le nombre de personnes qui ont été envoyées était plus grand que celui de l'année précédente. Cette augmentation était la demande de l'Organisation des Nations Unies parce que l'Indonésie est l'un des contingents les plus près dans les missions de paix. Selon Malta, 381 personnels ont été envoyés. 40 d'entre eux sont les membres de la police féminine. Ces troupes sont membres de l'unité de police constituée envoyée au Soudan pour l'opération hybride de l'Union africaine et des Nations unies au Darfour ou Minouat en Afrique centrale pour la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine ou MINUSCA. Le reste est envoyé en tant que conseiller de police à Soudan du Sud, en Haïti et au Congo. Ces officiers des unités de police constituées et les conseillers de la police indonésienne seront en poste pendant un an. La mission spéciale à mener consiste à protéger les objets vitaux appartenant aux Nations Unies et à mettre en œuvre les fonctions de conseiller de police, entre autres de protéger les réfugiés et sécuriser le processus de distribution de l'aide humanitaire. Rejoindre les forces de paix des Nations Unies est l'une des formes de l'engagement de l'Indonésie à participer à la réalisation de l'ordre mondial fondé sur la liberté, la paix éternelle et la justice sociale. Cela est conforme à ce qui est indiqué dans l'ouverture de la Constitution indonésienne de 1945. La participation de l'Indonésie à la mission de maintien de la paix des Nations Unies est en cours depuis 1957. Cet envoi est une autre forme de réalisation de la promesse faite par l'Indonésie de contribuer à la paix dans les pays en conflit. En septembre dernier, lors d'une séance publique à la 73e Assemblée générale des Nations Unies à New York, le vice-président Yusuf Kalla a déclaré que l'Indonésie fournirait 4 000 soldats. Lors d'une séance publique lors de la 73e Assemblée générale des Nations Unies à New York en septembre dernier, Yusuf Kalla a notamment déclaré que l'Indonésie contribuera 4 000 soldats de paix en 2019, en augmentant la proportion des troupes féminines. Bien sûr, il y a des raisons particulières pour lesquelles l'Indonésie est engagée à augmenter la proportion des femmes dans la paix. Certainement pas seulement parce que, à l'heure actuelle, leur nombre ne représente que très peu ou ne représente que 3% du total des troupes. Ou seulement pour remplir la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, numéro 1325, l'année 2000, qui soulignait l'importance du rôle des femmes dans les négociations de paix et la reconstruction après le conflit, surtout pour protéger les femmes et les filles contre la violence sexuelle dans les situations de conflit armé. Le rôle des forces féminines de maintien de paix est très important, notamment dans la mission de reconstruction après le conflit. Les femmes sont plus facilement acceptées et on leur fait confiance pour aider la communauté des femmes et des enfants. Les forces de paix indonésiennes pour femmes peuvent également être un exemple de la mise en œuvre de l'égalité des sexes en Indonésie, le pays qui compte la plus grande population musulmane. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Merci d'être fidèle à la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 17 décembre 1903, le premier vol de moteur par les frères Wright. Les frères Wright volèrent pour la première fois un avion contrôlé à 4 milles à proximité d'une région sablonneuse et vallonnée à Kitty Hawk, en Caroline du Nord. Des témoins ont déclaré que l'avion Wright Flyer était piloté par Orville, volant pendant 12 secondes. Le vol était le premier vol d'avion dans l'histoire. Le 17 décembre 1934, Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto, figure du mouvement indonésien, est décédé à Yogyakarta à l'âge de 54 ans. Il est l'un des pionniers du mouvement national qui a donné une couleur à l'histoire du mouvement indonésien, à savoir Musso, un socialiste ou communiste, nationaliste Soekarno et un religieux Kartosuwiryo. En mai 1912, Cokro Aminoto a adhéré à l'organisation Sarekat Islam. Hos Cokro Aminoto est connu comme l'un des héros du mouvement national basé sur le commerce, la religion et la politique nationaliste. Le 17 décembre 2011, Kim Jong-il, leader de la Corée du Nord, est décédé. Kim Jong-il est le chef de la Corée du Nord depuis 1994. Il remplace son père, Kim Il-sung, qui a dirigé la Corée du Nord depuis 1948. Kim Jong-il est décédé le 17 décembre 2011 à l'âge de 69 ans. Pour commémorer ses services, le 15 février 2012, il a reçu le titre le plus prestigieux de grand général. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie pour le titre « L'industrie de la mode musulmane pourrait être go international ». L'Indonésie a une grande opportunité de devenir le centre de la mode musulmane du monde. À cet égard, le ministère de l'Industrie estime que l'Indonésie deviendra le centre de la mode musulmane dans le monde en 2020. La directrice générale du ministère de l'Industrie à petite et moyenne échelle, Gati Wibawaningsi, à Jakarta, a déclaré vendredi que l'Indonésie était soutenue par les forces du marché en tant que l'un des pays possédant le plus grand nombre de musulmans au monde. En outre, l'industrie de la mode musulmane indonésienne est également considérée comme capable de rivaliser à l'échelle mondiale. Les opportunités sur le marché intérieur ont atteint 20 milliards de dollars américains, soit 1,9% du marché mondial de la mode. Pour une valeur d'exportation de 13,29 milliards de dollars, y compris les 5 grands pays de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, exportateurs de mode musulmane. Cela montre une très grande opportunité sur le marché de la mode musulmane mondiale et nationale. Selon Gati, le potentiel du vaste marché de la mode musulmane doit être exploité par l'industrie de la mode musulmane indonésienne. Par conséquent, cela peut augmenter la contribution du secteur de la mode musulmane au produit intérieur brut PIB. À l'avenir, le ministère se concentrera sur les vêtements musulmans, car le marché est clair. Gati a ajouté que l'industrie de la mode musulmane en Indonésie connaît actuellement une croissance significative avec une consommation moyenne domestique de 18,2% par an. En fait, le rapport sur l'état de l'économie islamique mondiale 2017-2018 a noté que l'Indonésie, comme le deuxième pays développé, la meilleure mode musulmane après les Émirats arabes unis. Dans le rapport de l'année précédente, l'Indonésie n'est pas incluse dans le top 10. Selon elle, le gouvernement s'efforce également de stimuler la croissance du secteur de la mode en renforçant les compétences des ressources humaines. Le gouvernement fixe des objectifs à long terme quand l'Indonésie devient le troisième grand exportateur de mode musulmane vers les pays de l'OCDE. Il a affirmé que l'un des efforts déployés par le gouvernement était de faciliter la tâche des concepteurs de la Chambre de la mode indonésienne, IFC, au défilé La mode sur la scène à Paris. Le défilé de mode qui s'est tenu le 1er décembre 2018 à Paris en France a réussi à introduire la mode musulmane des designers indonésiens et à devenir les pleins feux mondiaux. Environ 400 participants étrangers y ont assisté, y compris ceux de l'Italie, de l'Australie et de l'Allemagne. En outre, le ministère de l'Industrie lance également une exposition sur la mode musulmane qui se tiendra l'année prochaine, appelée le Festival international de la mode musulmane à Jakarta. À travers de cette série d'événements, Gati espère que le potentiel de l'industrie de la mode musulmane indonésienne est de plus en plus connu sur le marché mondial. Ainsi, l'objectif de faire l'Indonésie comme centre de la mode musulmane dans le monde en 2020 se rapproche. Serditeur, c'était mon Indonésie pour ce soir. Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le magazine culturel Pesona Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs, c'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel en programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation ainsi que les arts et la culture de diverses régions en Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous présenter le hameau traditionnel de Cipta Gelar. Territoire, le hameau traditionnel de Cipta Gelar est l'un des villages de Sukabumi en province de Jawa West. Le hameau traditionnel qui est inclus dans Kesatuan Adat Banten Kidul ou l'unité de la tradition du sud de Banten conserve encore la tradition et la coutume qui a été héritée il y a 640 années. Visiter le hameau est vraiment agréable. À ce village, vous pouvez sentir la vie traditionnelle et profiter également des valeurs traditionnelles locales. Administrativement, le hameau Cipta Gelar est situé dans le village de Sukamulya, sous communauté de Cisolok, la résidence de Sukabumi en province de Jawa West. Le hameau de Cipta Gelar est situé à environ 103 km de l'administration centrale de Sukabumi et autour de 203 km de Bandung, la capitale de Jawa West. Cipta Gelar peut être accédé en utilisant le véhicule de 2 ou 4 roues. Le hameau traditionnel de Cipta Gelar a l'air frais et froid. Les maisons des gens locaux ont les mêmes formes et sont propres et sont bien rangées. Les maisons de population locale sont des maisons sur pilotis avec des poteaux en bois. Les murs des maisons sont faits de bambous tressés avec des toits en fibre. Les villageois ont leurs propres caractéristiques de s'habiller. Les hommes portent le tissu noir et la bande de tête noire, tandis que les femmes portent kebaya sundanaise, simple, ou les blouses à manches longues traditionnelles de javanaise. Si vous visitez le village type Taglar et portez la bande de tête noire, vous serez considéré comme partie de la communauté villageoise. L'administration centrale du village traditionnel de Ciptaglar est appelée le village Gede. Au village Gede, il y a Imah Gede. Imah Gede est une maison du chef indigène traditionnel qui est aussi un endroit du chef indigène traditionnel de gouverner et de diriger le village. Ciptaglar est dirigé par Abba qui est nommé héréditairement. Dans la vie quotidienne, les villageois demandent toujours la bénédiction et la permission d'Abba à faire leurs activités et leurs travaux. Abba décide également le décret et la politique du village, de sorte que le rôle d'Abba est semblable comme un roi. Cerdita, le hameau traditionnel de Ciptaglar est très ouvert pour les touristes nationaux ou étrangers. Il est en conformité à son nom, Ciptaglar, qui signifie ouverte. De sorte, Abba et Ciptaglar et les villageois respectent chaque invité qui vient. Si vous visitez le village, vous devez visiter premièrement Imah Gede et rencontrer Abba pour demander la permission. Visitez Ciptaglar, vous pouvez voir la belle nature et les activités quotidiennes des villageois de Ciptaglar comme plantation de riz et de jardinage. En outre, ce village est riche avec des rituels ou des cérémonies traditionnelles telles que le rituel de Ngasek qui se tient avant la plantation de riz, le rituel de Sapeng qui a lieu une semaine après la plantation de riz, d'autres rituels. De tous les rituels, le rituel Serentaun devient le pic d'événement de Ciptaglar. Serentaun est une cérémonie pour exprimer la gratitude sur la récolte. Cette cérémonie se déroule habituellement à la première semaine de septembre. Chères auditrices et chers auditeurs, c'était le magazine Culture pour ce soir avec le titre « Le hameau traditionnel de Ciptaglar ». Demain, nous nous retrouverons avec un nouveau sujet plus intéressant. À bientôt!
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien. Un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre La Voix d'Indonésie, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est « Kemarin ada parade budaya » ou en langue française « Hier, il y a eu un défilé culturel ». Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre « Kemarin ada parade budaya » ou en langue française « Hier, il y a eu un défilé culturel ». Tony est en vacances dans la région du Temple Borobudur. Il discutait avec un guide touristique.
Kemarin ada parade budaya di sini.
Oh ya? Budaya apa?
Budaya tradisional Indonesia.
Oh, pasti menarik.
Après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et le vocabulaire sur le thème d'aujourd'hui, à savoir Kemarin ada parade budaya. Kemarin ada parade budaya. En français, hier il y a un défilé culturel. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Budaya, budaya, en français, culture. Parade budaya, parade budaya, en français, défilé culturel. Budaya traditionnel, budaya traditionnel, en français, culture traditionnelle. Concert, concert, en français, concert. Kemarin ada parade budaya di sini. Kemarin ada parade budaya di sini. En français, hier il y a un défilé culturel ici. Budaya apa? Budaya apa? En français, quelle culture? Budaya tradisional Indonesia. Budaya tradisional Indonesia. En français, culture traditionnelle indonésienne. Pasti menarik. Pasti menarik. En français, c'est certainement intéressant. Dua hari lalu. Dua hari lalu. En français, il y a deux jours. Dans une conversation entre un guide touristique et Tony, le guide a dit à Tony qu'il y avait eu un événement hier, où il parle « Kemarin ada parade budaya di sini. » « Kemarin ada parade budaya di sini. » En français, « Hier, il y a eu un défilé culturel ici. » Quand vous voulez dire à quelqu'un qu'il y a un événement, vous pouvez utiliser le mot « ada » ou « il y a » suivi du nom de l'événement. Pour montrer que l'événement s'est passé dans le passé, vous pouvez ajouter un marqueur de temps passé, c'est-à-dire tadi. Tadi, en français, plus tôt. Kemarin, kemarin, en français, hier. Dua hari lalu, dua hari lalu, en français, il y a deux jours, etc. Exemple. Kemarin ada konser di sini. Kemarin ada konser di sini. En français, hier il y a un concert ici. Si vous souhaitez fournir des informations sur un événement en cours, vous pouvez dire sekarang sedang ada konser. Sekarang sedang ada konser. En français, maintenant il y a un concert. Si vous souhaitez notifier qu'il y aura un événement dans le futur, vous pouvez dire besok akan ada konser di sini. Besok akan ada konser di sini. En français, demain il y aura un concert ici. Si vous remarquez, le mot ne change pas pour indiquer qu'un événement s'est produit dans le passé, se produit ou se produira. La différence qu'un événement ou un événement a été et ou va se produire peut être connu à partir du marqueur de temps, par exemple, kemarin. Kemarin, en français, hier. Sekarang, sekarang, en français, maintenant. Et besok, besok, en français, demain. Ou d'autres verbes tels que sedang, sedang, dans la phrase sekarang sedang ada konser. Sekarang sedang ada konser. En français, maintenant il y a un concert. Et akan, akan. Dans la phrase, besok akan ada konser di sini. Besok akan ada konser di sini. En français, demain il y aura un concert ici. Chers auditeurs, avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons l'exemple de la conversation encore une fois.
Kemarin ada parade budaya di sini.
Oh ya? Budaya apa?
Budaya tradisional Indonesia.
Oh, pasti menarik.
Chers amis, c'est à la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir. Serge Ritor, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir les auditeurs de RRI du Service mondial de la voix de l'Indonésie. N'importe où que vous soyez, on se retrouve avec moi, Tiwi, dans la rubrique du magazine musical qui vous présente les chansons indonésiennes. Dans cette édition, je vais vous présenter les chansons de Kroncong interprétées par des chanteurs indonésiens. Restez avec nous à www.voinews.id à 3325 kHz ou à l'application de RRI Play sur votre téléphone portable. Pour commencer l'édition d'aujourd'hui, écoutons la chanson de Tutti dont le titre est « Untukmu Kekasih » ou en français « Pour toi, mon amour ».
Thank you.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson intitulée « Untuk mu kekasih » ou en français « Pour toi mon amour » chantée par Tutti Mariatti. Cette chanson parle de quelqu'un qui a chanté une chanson pour son amant. Elle a chanté pour se divertir qui ment son amour. Elle espérait que le vent transmettrait ses salutations et son désir ardent aux personnes qu'elle aimait. Alors, chers auditeurs, écoutons ensuite la chanson de Kroncong intitulée Bengawan Solo, chantée par Wiwik Sriyono. Voilà la chanson intitulée Bengawan Solo, interprétée par Wiwik Sriyono. Bengawan Solo est l'une des chansons populaires de Keroncong. La chanson créée par Gisang n'est pas seulement chantée en Indonésie, mais aussi dans d'autres pays comme au Japon. Cette chanson est même devenue la bande originale dans des films grand écran au pays du soleil levant. Comme le titre, la chanson parle de Bengawan Solo, une rivière de Solo à Java Central. Dans cette chanson, Gisang exprime son admiration pour la rivière de Bengawan Solo. Bon les auditeurs, ensuite je vous présente la chanson intitulée Tanah Airku ou en français Mon Patrie, interprétée par Asri Sarjo et Surilang Parita Zahara. Ces deux chansons terminent aussi cette édition. Bonne écoute et au revoir.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes
sur 3325
kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Oh,
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes
sur 3325
kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta, 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.